Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Hier, on a beaucoup parlé de l'abolition du cours d'éthique et de propagande religieuse. C'était le cours d'éthique et de culture religieuse. Excusez mon lapsus. Non, mais vous savez très bien ce que je pense du cours de ECR. Et là, on sait que ça va être remplacé par un cours de culture et d'éducation à la citoyenneté. Et ça pose la question, c'est quoi un bon citoyen? Et je pense qu'un des points sur lequel le ministre Robert je devrais beaucoup insister dans ce cours-là, c'est l'éducation à la chose juridique. Qu'est-ce que c'est la présomption d'innocence? Qu'est-ce que c'est le fardeau de la preuve? Qu'est-ce que c'est quand on dit qu'un accusé a le droit à un procès juste et équitable, à une défense pleine et entière? Il y a plein de choses qui devraient être dans ce cours-là, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement des sciences, il y a plein de choses qui devraient être là-dedans, mais je pense qu'au cœur de ça, ce qui fait un bon citoyen, c'est quelqu'un qui connaît la loi, car comme le dit le proverbe, nul n'est censé ignorer la loi. Quand j'ai vu que le ministre Roberge donc cherche à savoir ce qu'il devrait y avoir dans ce cours-là, j'ai lancé un très intéressé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
C'était il y a 10 ans, le 19 octobre 2011. Celui qui était alors premier ministre du Québec nous disait ceci.
Notre gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.
Donc, c'était il y a 10 ans, un petit peu moins, il y a quelques jours, et on voulait faire le bilan 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui est ressorti exactement de la fameuse commission Charbonneau? On va parler avec Sonia Lebel, qui est maintenant, évidemment, présidente du Conseil du Trésor au Québec, mais qui, à l'époque, était la procureure en chef de cette commission. Madame Lebel, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan vous faites quand vous regardez ça 10 ans plus tard? Est-ce que ça a valu le coup quand même? Plus de 40 millions de dollars pendant 4 ans. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent avec la commission Charbonneau?
Il y a plusieurs points de vue pour faire le bilan d'une commission d'enquête. Si on parle de point de vue économique uniquement, je pense que oui. On a eu la loi sur la récupération des sommes de l'État qui a découlé de cette commission d'enquête qui nous a permis de récupérer des centaines de millions de dollars. Pendant même la commission Charbonneau, quand on était dans la phase où on enquêtait beaucoup sur la ville de Montréal, à cette époque-là, pendant les auditions, les contrats de public ont baissé de l'ordre de 30 %. Donc, cette valeur-là est plus difficile à chiffrer, mais c'est beaucoup de millions de dollars également qui ont été économisés. Donc, moi, je pense que si on est dans un bilan purement comptable, économique, oui, les retombées de la commission ont été positives. Mais il y a tout l'aspect de l'éducation, de la corruption, de mettre à jour des stratagèmes. Je pense que ça se chiffre pas, ça, mais c'est un bilan qui est également positif pour moi, là.
Quand on parle à la population, quand on parle aux gens, ce qu'ils retiennent de la commission Charbonneau, c'est bien sûr la question des redevances, des pizzos, un chum, c'est un chum, toute cette proximité entre le crime organisé, le milieu de la construction, les redevances et tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire, 10 ans plus tard, que ça a été assaini? C'est-à-dire que, je sais que vous avez déjà utilisé cette image-là pour encourager un témoin à témoigner. Vous avez dit, quand il y a une pièce qui est sombre et qui est remplie de rats, quand on met la lumière, les rats s'en vont. Est-ce que les rats sont partis, Madame Lebel?
les rats s'en vont dans l'ombre. Donc, ce qui est important, c'est que je pense qu'avec la commission, puis il faut continuer d'ailleurs à en parler, parce que pour moi, à partir du moment où on cesse d'en parler, c'est l'ombre qui réenvahit la pièce tranquillement et donne de l'espace, justement, à ces tractations d'avoir lieu. Donc, est-ce qu'on peut complètement, totalement éliminer la corruption dans notre monde? Je pense pas. Je pense que la juge Charbonneau l'a bien dit l'autre fois, quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là, c'est une expression fort connue. Mais je pense que ce qu'on a réussi à faire, c'est d'agrandir le cercle de lumière, justement, pour être capable d'avoir une zone de tractation honnête sur les marchés publics le plus possible. Parce qu'on voyait dans l'île de Montréal, surtout, ce qui avait été démontré, c'est que même les entrepreneurs qui ne voulaient pas participer au système étaient happés pour des questions de survie. Hein. Et on nous l'a dit, si je participais pas, ben je perdais ma compagnie, les employés. Donc, c'était pas tous des volontaires, si on veut. Là, on peut toujours dire que, oui, ils ont décidé de le faire pour garder leur compagnie, mais faut être dans cette situation-là, des fois, pour la comprendre. Il y a des gens qui sont purement volontaires, qui créent les systèmes, et il y en a qui participent pour des questions de survie. Il y en a qui décident de ne pas y participer. Des fois, ben ils sont écartés des marchés. On l'a vu, on en a entendu aussi également. Donc, je pense que on a agrandi la zone de lumière, si je peux continuer dans cette expression, mais il faut toujours être vigilant, sinon ça reprend place, là, c'est sûr.
Une chose qui, moi, m'avait frappée à l'époque, il y a 10 ans, c'est le courage des gens qui sont venus témoigner, des gens qui sont venus dénoncer, qui sont venus justement contribuer à mettre de la lumière. Est-ce que vous pensez qu'on les a suffisamment remerciés? C'est-à-dire que c'est des gens qui, parfois, ont payé le prix, leurs familles ont été menacées, ils ont été obligés d'être sous protection policière. Est-ce que 10 ans plus tard, vous considérez que leur sacrifice a vraiment valu la peine? Et est-ce que, comme société, on les a suffisamment soutenus, Mme Lebel?
C'est une excellente question. C'est très difficile d'y répondre. Je suis convaincue du point de vue personnel de ces gens-là. Ils ont payé un fort prix. Et je ne sais pas si le fait que la société en est ressortie meilleure, quant à moi, va les rassurer, là. Mais oui, vous avez raison. Il y a des gens, il faut faire la différence entre les gens qui sont venus volontairement nous aider. Et souvent, pour être capable de décrire un tel type de stratagème, bien, il faut y avoir, dans une certaine mesure, participé. Parce que sinon, je veux dire, on n'en a aucune connaissance de l'intérieur. Donc, je sais pas. Honnêtement, c'est pas une question auquel j'ai pas de réponse. J'espère que les gens, 10 ans plus tard, avec le recul, l'émotivité qui est retombée un petit peu, parce que c'était devenu un peu aussi un bûcher populaire, la commission, alors que c'était pas son rôle. Mais je pense qu'il y a eu des dommages collatéraux pour beaucoup de personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice et de venir dénoncer. J'espère que 10 ans plus tard, on peut faire ce recul-là, effectivement, Mme Durocher, peut-être remettre en perspective le sacrifice de certains de ces entrepreneurs-là, de ces ingénieurs-là surtout, qui sont venus nous expliquer pourquoi ces stratagèmes-là existaient. Puis, faut pas oublier que là, on est 10 ans plus tard, mais à la commission, on allait 15 ans en arrière. Hein? Donc, c'est il y a 25 ans. Il y a 25 ans de tout ça. Donc, la société n'est plus au même endroit. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas encore des choses qu'il faut surveiller, là. Mais on n'est plus dans la même époque. Et c'est toujours la difficulté que la commission avait, qu'on a encore aujourd'hui, d'évaluer les actions du passé avec le regard d'aujourd'hui, le prisme de l'époque dans laquelle on vit actuellement. Donc, c'est sûr que ça peut créer des distorsions d'impression, des distorsions de je pense que non. La réponse est non, mais moi, je suis convaincue qu'on en est ressorti au final, comme société, grandi. Mais dites ça aux individus, je suis convaincue que leur point de vue n'est pas le même. C'est sûr, c'est certain.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été inquiète, où vous avez eu peur? Je pense, par exemple, quand il y a quelqu'un du crime organisé qui vous dit, ben si j'ai confiance en toi, oui, c'est ça.
Oui. Si tu me fais du bien, je te fais du bien. Si tu me fais du mal, je te ferai du mal. Oui et non, c'est-à-dire que inquiète au point d'en être paralysée, empêchée de dormir, la réponse est non. Il faut comprendre que moi et Denis Galland, entre autres, on avait un actif là, de poursuite du crime organisé depuis 15 ans devant les tribunaux. Donc moi, la mafia, les Hells Angels, j'ai fait des dossiers de meurtre. Donc j'ai une pas une habitude parce qu'on s'habitue jamais à être menacé, mais j'ai une conscience de l'évaluation réelle d'un danger, disons-le comme ça, mais de dire que j'étais complètement insouciante face à ça, bien non, on prend des... Moi, même, ça a été la plus grande difficulté pour moi en politique, c'est de m'ouvrir sur ma vie personnelle, sur le fait que j'ai une famille, des enfants. Quand j'étais procureure de la Couronne, c'était impossible pour moi de faire ça. Jamais je ne parlais de mes enfants, ou presque, en public, surtout. Jamais je ne donnais des indications de l'endroit où je pouvais habiter. C'était pour moi une seconde nature d'avoir de protéger mes informations personnelles. Donc, même sur mon Facebook, à l'époque, j'en avais un comme tout le monde, mais je pense que j'avais la difficulté à recruter des amis parce qu'il était fort inintéressant. Il n'y avait rien là-dessus.
Personne voulait.
Ben, je veux dire, moi, j'imagine que des photos de lac sans mention du moment où j'étais là devenaient un peu à la longue, c'est ennuyante.
Vous étiez plate, Madame Lebel. Il fallait que vous soyez plate.
À dessein.
Je comprends.
On le voit maintenant, hein, chaque indication, je veux dire, on est capable de retracer maintenant, on sème à tout vent des informations personnelles sur nos réseaux sociaux, donc, et ça devient presque un jeu d'enfant pour les gens qui sont mal intentionnés de rassembler un portrait de nous et de nous cibler. Donc, ça a été, je vous dirais, je comprends que c'est pas l'objet de votre question, là, mais ça a été comme pour moi la grande difficulté lors de mon passage en politique où les gens s'intéressent beaucoup aussi à la personne, autant qu'au message, alors que comme procureur de la Couronne, c'est le message qui est mis de l'avant. Donc, oui et non. Ça ne m'a pas empêché de dormir, mais on a une crainte qui est objective. On a une belle évaluation du danger. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se comporte en conséquence. Là, donc, mais oui, il y a des. Je peux pas dire que quand quelqu'un comme Mioto vous dit ça en vous regardant dans les yeux, vous n'avez pas un petit frisson. Là, je serais menteuse.
Je veux vous faire écouter un petit extrait d'Infoman.
Cette semaine, à la commission Charbonneau, Michel Arsenault s'est présenté à la barre des témoins. Et maître Sonia Lebel l'attendait de pied ferme. J'avoue ma grande faiblesse pour les petits coups de tête autoritaires de maître Sonia Lebel.
C'est parce que je peux aller prendre un café puis revenir tantôt, si vous voulez. Là.
Est-ce que ça vous avait fait rire à l'époque?
Oh oui, absolument. On avait besoin de rire. Parce que c'était on faisait des choses tellement sérieuses, tellement intenses, beaucoup de pression du public, il y avait beaucoup d'attentes, je le disais, hein, sur le rôle que les gens avaient dans leur tête de ce que la commission devait obtenir comme résultat et la réalité de notre mandat. Mais il y avait deux choses, puis je vais faire un peu publicité, deux choses qui me faisaient beaucoup rire dans la semaine et que je vous avoue qu'on prenait une pause pour écouter.
Oui.
Il y avait Infoman et les tounes du vendredi de Paul Arcand.
Ah oh, ben là!
Oui, je sais, je m'excuse.
Je pardonne.
Mais parce que pour nous, c'était... Non, mais c'est parce que c'était un moment humoristique où on était capable aussi de rire. En tout cas, moi, je parle pour moi, pour la commissaire Franche Charbonneau et Denis Galland. On est des gens qui ont travaillé beaucoup dans ces domaines-là, très sérieux. Puis l'autodérision fait partie de nos mécanismes de survie. Donc, c'était très drôle.
Puis il y a évidemment...
J'étais exaspérée, mais c'est très drôle.
Oui, alors il y a évidemment votre claquement de doigts. Vous étiez exaspérée devant le témoin Michel Arsenault de la FTQ. Vous avez dit, j'ai écouté plusieurs entrevues de vous, où vous dites, bon, c'était une erreur, je me suis peut-être un peu emportée. Moi, je trouve pas que c'était une erreur. Vous étiez... Vous transmettiez, en fait, le sentiment de tout le monde face à Michel Arsenault. On n'était plus capable des gens qui tournaient autour du pot, qui refusaient de se prononcer. C'était tout le Québec qui était derrière vous en train de faire ça comme ça à Michel Arsenault, là.
Bien, c'est plus... comme personne et citoyenne, c'est sûr que j'étais exaspérée. Je veux dire, on fait pas ça. C'était pas planifié, ça, je peux le confirmer. Là, je peux entrer dans la salle d'audience le matin en disant « je vais sortir de mes gonds », là. Pas du tout. Mais c'est plus du point de vue de ma formation. Hein. Moi, je suis membre du barreau. J'étais procureur de la Couronne à l'époque. Je représentais l'État. Donc, j'ai été, en bon français, drillée à avoir une posture qui était beaucoup plus au-dessus de la mêlée que celle-là. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, quand je suis sortie de la salle d'audience cette journée-là, premièrement, je savais que je venais de créer quelque chose qui allait me coller à la peau. Ça, je l'avais compris. Et c'est sûr que moi, je place la barre très haute sur mes attitudes. Même en politique, j'essaie le plus possible de demeurer au-dessus de la mêlée parce que c'est ma formation depuis 30 ans. On peut pas me sortir ça, là. Ça a été entré puis ancré en moi. Mais oui, j'étais déçue de moi-même, mais en même temps, je comprends tout à fait ce que vous dites, parce que si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai ressenti. Là. Mm. Et on pourrait parler de cette semaine d'interrogatoire-là pendant encore de longues minutes, mais ça a été une des plus difficiles sur le plan de jouer au poker, puis d'essayer de pas trop faire voir mes émotions, puis c'est complètement raté. Je l'ai fait dans la première demi-heure, donc.
Si je vous dis le nom Marc Bibeau, si je vous dis l'enquête mâchurée, ça vous évoque quoi aujourd'hui? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous pensez que ça va finir par aboutir à un moment donné?
C'est très difficile hein, de juger de l'intérieur, puis je le sais parce que j'y étais à l'intérieur, mais j'ai pas eu accès à rien. C'est sûr que je comprends l'exaspération des gens, c'est très long, mais on le voit comment c'est complexe. Ça nous prend des gens pour venir expliquer les stratagèmes, mais quand on parle de les expliquer pour une commission d'enquête, où notre objectif n'est pas de trouver des coupables, mais de voir comment on peut mettre l'espèce de barrière... pour que l'ombre éviter que l'ombre envahisse la pièce là. Donc où est-ce qu'on peut allumer les lumières, comment on peut mettre des garde-fous, on n'est pas dans le même angle d'analyse et c'est très difficile. Moi je pense que nous, pour la commission, on est allé chercher les éléments nécessaires. De tout ça est découlé entre autres l'autorité des marchés publics là, dont oui. Je suis maintenant responsable, mais je pense que si on parle du point de vue de la commission, du mandat qui était d'identifier des stratagèmes et de mettre en place des garde-fous, des mécanismes à tout le moins pour les identifier et les analyser en continu, c'est un succès. Si on se met du point de vue, c'est pour ça que vous parliez du bilan, je pense que ça boucle à la boucle un peu, vous parliez de, est-ce qu'on peut parler d'un bilan positif? C'est sûr que si les gens sont du point de vue des condamnations aux criminels et d'aller faire payer les coupables, en guillemets, je peux comprendre la déception des gens, mais c'était pas l'objectif de la commission. Donc, mais c'est sûr que ça a mis à jour des choses, ça a démontré ça a mis des acteurs de l'avant, puis c'est sûr que c'est très frustrant pour les gens de voir que certains d'entre eux qui ont été au cœur de cette commission semblent, à tout moins en apparence, s'en tirer indemne.
Et parlant de frustration, votre opinion sur ce qui vient de se passer cette semaine, un autre procès avorté, là, l'UPAC et la Couronne blâmés dans l'arrêt des procédures contre l'ex-maire de Terrebonne. Vous avez réagi comment quand vous avez vu ça à la une du Journal de Montréal, Journal de Québec?
Bien, ma première réaction, puis encore une fois, c'était une réaction d'ancienne procureure de la Couronne. C'est toujours difficile de lire un tel jugement qui vient blâmer nos institutions. Et on peut toujours être déçu parce qu'on dit, écoutez, là, on veut que des procès se gagnent ou se perdent, si on peut regarder comme ça, ou se concluent à tout le moins pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le système judiciaire a fait son travail. On peut dire que la preuve n'a pas été suffisante. On peut dire qu'elle a été suffisante. Donc, il y a une condamnation, il y a un acquittement, etc. C'est le propre de notre système et c'est correct quand le système fait son travail correctement, puis c'est toujours difficile. C'est un peu comme quand il y avait des arrêts de procédure Jordan parce que les délais judiciaires étaient trop longs. Pour moi, je fais le même parallèle. Vous allez me dire que c'est un peu différent, mais c'est le même parallèle. On obtient un résultat qui n'est pas positif ou un résultat décevant, pas parce que le système a fait son travail correctement et a fait la part des choses entre le vrai et séparer l'ivraie du bon grain, si je peux le dire comme ça, mais parce que les acteurs du système et les institutions ont failli. Et ça, je pense que c'est la leçon qu'il faut retenir. Il faut renforcer nos institutions pour s'assurer que ça n'arrivera plus jamais. Mais c'est sûr qu'il y a une déception quand la fin est dans ces termes-là, c'est clair. Il y a une déception. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut voir comment on peut, au lieu de tout mettre de côté, justement, apprendre de ça, faire un post-mortem et dire, puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'individu, c'est une question d'outils, c'est une question de pouvoir des institutions, c'est une question, parce que ça peut se résumer à plusieurs choses. Donc, je pense qu'il faut prendre les différentes institutions, tant l'UPAC que le DPCP vont faire leur travail d'analyse, puis après ça va être à nous de voir pour comment on peut y donner suite pour éviter que ça se produise à nouveau, là.
Une dernière question en terminant, mais c'est plus pour vous taquiner qu'autre chose. Si on fait un film, sur la commission Charbonneau, qui vous aimeriez que joue votre rôle?
Hey, ça, c'est une bonne question.
J'adore ça. J'adore ça quand vous me dites que je pose des bonnes questions. Moi, j'imaginais...
Non, mais elles sont toutes très bonnes. Eve
Landry...
Quand j'ai pas de réponse.
Eve Landry, si on lui teint les cheveux en noir puis qu'on lui met des petites lunettes... Hein?
Oui.
Ben,
oui.
Vous réfléchirez à ça?
J'aime bien Isabelle Richer, moi. J'aime bien Isabelle Richer dans la faille, là.
Ah!
Je trouve qu'elle a... Elle a une... Peut-être il faudrait lui teindre les cheveux en noir puis poser la question, mais là, écoutez, là, je vais nommer des gens, puis il y a plein qui vont dire, ben là, elle est trop arrogante, quand qu'elle se compare à quelqu'un à qui elle ne ressemble pas du tout, là.
Parce
que... Là, je la comparais à un personnage, mais écoutez, c'est une bonne question, mais ça... Je pense pas que ça va arriver, donc on verra. Là, je vais continuer à fantasmer.
Ben, je pourrais peut-être vous demander aussi qui devrait jouer le rôle de M. Miliotto, mais... Gilda Roy pourrait faire Lino Zambito. Enfin, bref, on n'a pas fini.
C'est vrai. Oh, oui, ben là, je pense que si on peut s'amuser au jeu du casting, on pourrait avoir beaucoup de plaisir les vendredis soirs, chacun chez soi.
Oui, et puis je j'irai pas non plus à demander qui pourrait faire Madame Charbonneau, parce que ça pourrait devenir aussi assez amusant. Merci beaucoup, Madame Lebel, puis à la prochaine.